BW. Magazine Environnement.
Au menu cette semaine, le cadre de vie à Cotonou au Bénin et nous parlerons également des forêts sacrées dans ce pays. Également au menu, un reportage sur les pisteurs des animaux en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivit Yassou au micro. Cap d'abord sur le Bénin où la ville de Cotonou mène depuis quelques années une politique d'assainissement de son cadre de vie. À Cotonou, la pollution de l'air peut s'observer à tous les points de la ville, notamment aux principaux carrefours et reste une préoccupation aussi bien socio-économique, politique que sanitaire. Mais la situation s'améliore, estime le lieutenant-colonel Adjibé Razak. Il est le directeur de la conservation et de la promotion des ressources naturelles au Bénin.
Ce que vous dites, c'était un véritable problème, puisque les routes sont encombrées, les voitures, les motos ne circulaient pas aisément. Le véhicule qui doit mettre 30 minutes pour parcourir une zone met 2 heures de temps parce qu'il y a des embouteillages, parce qu'il y a l'encombrement des voies. Mais avec la politique du gouvernement, le ministère du cadre de vie, qui a procédé au déguerpissement, excusez-moi le terme, des espaces publics occupés, il y a eu, dont les routes qui étaient un temps occupées, il y a eu une certaine fluidité de la circulation, ce qui réduit déjà le phénomène de la pollution. Mais ces espaces qui ont été débarrassés de leurs occupants illégaux ont été aujourd'hui reboisés. Donc il y a eu une certaine amélioration du cadre de vie au niveau du Bénin. Le Bénin est désormais plus vivable.
Le Bénin est désormais plus vivable. Le Bénin, tout comme le Togo, on connaît ce phénomène des forêts classées qui ont une histoire en réalité. Dans le passé, les ancêtres voulaient protéger ces zones, les ont déclarées classées juste pour que les gens n'y entrent pas, pour couper les arbres. Est-ce qu'aujourd'hui, on compte encore des forêts sacrées au Bénin qui, est un, qui sont quand même des endroits très appréciés?
Il faut dire que le Bénin regorge d'énormes quantités de forêts sacrées. Fort heureusement d'ailleurs, puisque ces forêts sacrées constituent aujourd'hui les refuges de la biodiversité qu'on a au niveau de nos terroirs. Sinon, les terroirs avec les pratiques agricoles non adaptées, la dégradation des terres, la biodiversité disparaît pratiquement. Donc les seuls refuges où on peut trouver des espèces emblématiques, des espèces de valeur, c'est encore au niveau des forêts sacrées du Bénin. Heureusement que nos ancêtres ont eu ce génie-là pour conserver les ressources naturelles.
Et si c'est comme ça, pourquoi ne pas déclarer toutes les forêts sacrées?
Non, toutes les forêts ne peuvent pas être sacrées. Parce que quand vous parlez de sacré, il y a un aspect spirituel derrière. Il y a un aspect spirituel derrière. Et donc, tant qu'il n'y a pas l'aspect spirituel, on ne peut pas parler de forêt sacrée. Mais il y a aussi des forêts classées. Il y a des forêts classées qui est un concept beaucoup plus moderne. Beaucoup plus moderne qui permet de protéger les écosystèmes fragiles, les écosystèmes sensibles. Donc, au Bénin, nous avons d'importantes quantités de forêts classées. Et ces forêts classées sont tous, les forêts classées d'une certaine importance sont tous dotées de plans d'aménagement.
Mais les forêts sacrées sont plus respectées que les forêts classées. Et est-ce qu'on ne peut pas apprendre de cela pour rendre certaines zones tout simplement sacrées?
Oui, le Bénin, effectivement, a appris de ce caractère, de la sacralisation, des sites pour protéger les ressources naturelles. Cette technique-là, aujourd'hui, est utilisée au niveau des mangroves. La mangrove pour protéger certains mangroves à travers la sacralisation des divinités qui sont mises en valeur au niveau de ces forêts de mangroves-là pour les protéger.
Donc là,
c'est une expérience qui mérite d'être dupliquée pour une meilleure conservation de nos ressources naturelles.
Oui, là, il faut, sur ce plan, et pour y arriver, il faut travailler avec la communauté, il faut travailler alors avec les dignitaires religieux.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, en ce qui concerne les forêts classées, le mot de sacralisation, rien ne se fait sans les dignitaires. C'est les dignitaires qui sont en avant-plan et pour nous permettre de protéger les ressources naturelles. Et il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau du Bénin, nous sommes dans le processus d'intégration des forêts classées dans le système, des forêts sacrées, j'allais dire, dans le système des aires protégées du Bénin. Jusqu'à une période récente, les forêts sacrées étaient un peu négligées sur le plan administratif. Aujourd'hui, il y a un test réglementaire qui dit tout ce qu'il faut faire pour mettre les forêts sacrées dans le système des aires protégées du Bénin. Et ce processus là est en cours pour plusieurs forêts sacrées, surtout les forêts sacrées qui ont une certaine superficie.
Et quelle est la forêt sacrée la plus emblématique au Bénin?
C'est difficile à dire parce que chaque forêt à sa spécificité. Vous avez des forêts cimetières, des forêts qui servent de culte, des forêts qui abritent certaines divinités, qui permettent la procréation. Donc on ne peut pas tout de suite classer, dire cette forêt est plus importante que telle autre. Mais chaque forêt a sa spécificité et les spécificités de chaque forêt méritent d'être sauvegardées.
Est-ce que la jeune génération aussi y croit et les respecte?
C'est un véritable problème parce qu'avec les nouvelles religions, les religions importées, je veux parler du christianisme, de l'islam, il y a une certaine désacralisation du sacré. Cette désacralisation du sacré là, les forêts sacrées ne sont pas exemptes. Ce phénomène s'observe aussi au niveau des forêts sacrées, mais dans tous les cas, il y a toujours de ces dignitaires qui sont prêts à taper du poing sur la table pour remettre les choses en ordre. Et à côté d'eux, il y a l'État qui les accompagne.
Le lieutenant-colonel Hadji Berazak, directeur de la conservation et de la promotion des ressources naturelles au Bénin. Précisons qu'au Bénin, malgré leur sacralité, les espaces forestiers divinisés ne sont pas épargnés par la dégradation que subit la nature avec la destruction des forêts, des plans d'eau, la disparition de certaines espèces végétales et animales.
DW
En Afrique du Sud, l'Académie des pisteurs forme des jeunes aux techniques ancestrales de pistage des animaux. Cette formation leur permet de trouver un emploi au sein des parcs nationaux tout en protégeant la faune sauvage. Stéphane Meul était à la rencontre de l'un des pisteurs. Son reportage est présenté par Sophie Serbini.
This is the front.
C'est dans ce sens.
Zuki Zani Kabalaza, en pleine brousse, dans la réserve de Lapala, au nord de Johannesburg. Un groupe de rhinocéros se cache quelque part ici.
Nos ancêtres pistaient les animaux pour leur viande, ils les chassaient. Ce sont eux qui ont lancé cette tradition. Nous marchons sur leurs traces, mais nos motivations ne sont pas les mêmes. Ils le faisaient pour manger, nous le faisons pour protéger notre planète. Pas pour tuer, mais pour protéger.
L'Afrique du Sud abrite près de 80% de la population mondiale de rhinocéros, une cible de choix pour les braconniers. Mais depuis 2014, grâce à des mesures strictes de protection, la réserve a réussi à diviser le nombre de rhinocéros tués par deux. En 2019, par exemple, 600 animaux ont été abattus contre 1200 auparavant. Le directeur de la protection de la vie sauvage de l'Apala, Herman Müller, ne compte pas que sur la technologie pour protéger les animaux.
Nous assurons bien sûr un suivi des déplacements des différents animaux grâce à différents appareils, surtout pour les espèces les plus sensibles comme les grands félins et les rhinocéros. Mais la technologie peut défaillir et en ce moment-là, nous devons nous rabattre sur les techniques de pistage de base.
La réserve de Samara fait partie du Grand Karoo, une région semi-désertique caractérisée par une faune, une végétation, des sols et un climat particulier. La réserve accueille aussi les activités d'un institut de formation unique en Afrique, l'Académie des pisteurs. Aujourd'hui, séjour d'évaluation, l'Ebogang Matebula doit prouver qu'il peut pister une antilope dans les paysages semi-arides de Karoo.
C'est franc, toi.
C'est la pâte avant, parce que si vous regardez ici, l'empreinte est bien marquée.
Un bon pisteur peut lire l'environnement. Il doit pouvoir comprendre les habitudes des animaux de manière assez intuitive. Les excréments sont seulement l'un des multiples indices que les pisteurs exploitent. Et l'examen est réussi. L'élève pisteur a trouvé les antilopes.
J'ai grandi dans la brousse près de Mpumalanga. Je voyais plein d'animaux, mais seulement les plus petits. Les grands animaux, comme les rhinocéros, ils sont dans les réserves. C'est pour cela que je voulais venir ici pour en savoir plus sur ces animaux.
L'Académie est une organisation à but non lucratif qui forme 24 jeunes chaque année gratuitement. Les élèves sont issus de milieux ruraux et viennent de différents pays d'Afrique. Le directeur, Alex van der Rever, a créé l'école il y a 10 ans avec l'appui d'un sponsor privé, alors qu'il ne restait que quelques pisteurs en Afrique.
Former ces pisteurs bénéficie à la protection de l'environnement. Nous permettons aussi à ces étudiants de s'assurer un avenir meilleur.
Une ambition qui se confirme sur le marché du travail. 94% des étudiants ont trouvé du travail. Les pisteurs sont très demandés. De nombreux animaux emblématiques pour la région, comme les guépards, les crocodiles, les léopards, sont encore menacés de disparition. Après une longue journée de travail au grand air, les élèves retrouvent leur internat pour le dîner. La plupart ont entendu parler de l'académie par le bouche à oreille, par des jeunes de leur village qui avaient participé au programme et ont ensuite trouvé du travail dans les réserves. Ils espèrent eux aussi servir d'exemple pour les jeunes de leur communauté.
Un reportage de Stéphane Moël présenté par Sophie Serbini était également au menu, le cadre de vie et les forêts sacrées au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Kosivitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.